Postface. Comme mes romans précédents, celui-ci est une fiction, prenant pour toile de fond un certain nombre de faits historiques, à commencer par tous les éléments relatifs à la mythologie. Ma documentation s'est appuyée initialement sur les outils désormais classiques que sont Google et Wikipédia, puis élargie au fil des informations trouvées. C'est ainsi que j'ai relu avec délice le Critias de Platon, dans la traduction faite par Émile Chambry, et un grand nombre de commentaires s'y rapportant, en me limitant à ceux de chercheurs sérieux et en évitant les plus folkloriques. Je me suis intéressé plus particulièrement à ceux figurant sur un site de vulcanologie, absolument passionnant et très complet, alimenté par Tom Pfeffer. Son analyse des récits fameux de Platon est tout à fait remarquable, ce qui ne l'empêche pas de montrer également un talent certain pour l'humour. Les principaux arguments qu'il développe en faveur de Santorin comme origine la plus probable du mythe ont été mis dans les bouches de Claire et Charlie au chapitre 7. Le site de Pfeffer décrit également avec une grande précision l'histoire géologique de l'île, depuis son apparition jusqu'à nos jours, en passant par la fameuse éruption survenue il y a 35 siècles. Ce terrible cataclysme s'est produit 900 ans avant Platon, devenu 9000 ans dans son récit. Pfeffer y voit une allusion directe à la réalité historique. Quoi qu'il en soit, deux énormes brèches se sont formées et la caldeira du volcan a été envahie par la mer, donnant à Santorin son aspect actuel et provoqué, comme mentionné à plusieurs reprises dans le récit, un tsunami qui a ravagé une bonne partie de la mer Égée et détruit l'empire minoen en Crète. Les détails sur la colonne de fumée et le changement climatique décrit dans le roman sont également authentiques. Les Minoens, qui ont pu s'enfuir vers l'Est, sont cités dans la Bible sous le nom de Philistins. Leur nom, Philistini, est devenu Palestinien. Un peuple qui n'a jamais connu la paix depuis qu'il a été poussé à l'exil par le volcan il y a 35 siècles. Cléo rappelle à juste titre dans le chapitre 16 que les Grecs de l'époque, des Mycéniens, en ont profité pour envahir et coloniser les îles minoennes, ramenant dans les soutes de leur vaisseau la déesse Athéna Potnia. Le nouveau masque pris par la déesse au serpent, elle-même l'une des multiples représentations d'Istar, alias Lilith, la femme primordiale. Le nom Ophitea n'existe pas. Je l'ai créé pour les besoins du récit. Les îles minoennes ne faisaient pas partie de la Grèce. Les Minoens parlaient une langue différente du grec et utilisaient quatre écritures ne ressemblant en rien à l'alphabet grec, dont deux hiéroglyphiques et deux linéaires, nommés A et B. Une seule de ces écritures a pu être déchiffrée à ce jour, le linéaire B. La description de l'antique Callistée, donnée au chapitre 6, est basée sur celle que Platon fait de l'Atlantide dans le Critias. Chez ce dernier, le temple se trouvant au centre de l'île, entouré du troisième fossé, est consacré à Cléto et Poséidon. La cérémonie macabre du chapitre 13 est purement imaginaire. Le nombre 108 a un grand nombre de significations symboliques en Orient, telles que les 108 épreuves que subit Bouddha avant d'atteindre l'illumination, ou les 108 faiblesses à surmonter pour s'élever. Le mala, chapelet utilisé par les bouddhistes, a 108 perles et permet de compter les mantras ou les prosternations. Quant à l'oréchalque, personne ne connaît la nature de ce métal mystérieux, évoqué par Platon, mais resté non identifié jusqu'à maintenant. C'est Pierre Benoît, dans son chef-d'œuvre L'Atlantide, qu'il imagine comme présentant des reflets rouges, ce qui m'a inspiré les détails sinistres du même chapitre 13. Les puristes feront remarquer que du sang mêlé à de l'or en fusion deviendrait immédiatement brun, mais je me retrancherai derrière mes prérogatives d'écrivaine pour camper sur mes positions. Quand on ajoute du sang à de l'or, on obtient de l'orichalque d'un rouge profond. Ainsi soit-il. En modeste ouvrage, j'ai également emprunté à Pierre Benoît la forme en dôme du temple secret d'Akrotiri, ainsi que deux ou trois autres détails de son roman merveilleux à plus d'un titre. Le mégalodon Carcharodon est un ancêtre préhistorique du requin, qui s'est vraisemblablement éteint il y a 1,5 million d'années. Il avait une taille de 15 à 20 mètres, d'après les dimensions des dents fossiles qui ont pu être retrouvées. Ces dernières font plus de 20 cm de long. Les capteurs de pression qui lui sont attribués dans le récit n'ont rien de fantaisiste. Ils s'inspirent directement du système auditif, en fait barométrique, ultra sensible des requins contemporains. Certains chercheurs pensent qu'il existe encore des mégalodons vivants de nos jours, sur la foi de dents récupérées en parfait état sans aucune trace de fossilisation. Il pourrait vivre à plusieurs centaines de mètres de fond et passer ainsi totalement inaperçu. Improbable ? Totalement possible au contraire. Il se trouve qu'en avril 2007, pendant l'écriture de ce roman, le volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion a subi une éruption importante qui a provoqué des coulées de lave se déversant dans l'océan. La chaleur a fait remonter à la surface de nombreux poissons ébouillantés. À la plus grande surprise des spécialistes, plus de 30 espèces se sont révélées être totalement inconnues. Les descriptions des plongées s'appuient principalement sur mon expérience personnelle de ce sport merveilleux dont je suis une pratiquante passionnée. J'ai complété certains détails techniques grâce à des sites spécialisés. Un ami plongeur d'un niveau plus avancé que le mien m'a aidé à peaufiner les éléments de la plongée extrême du chapitre 11. Mettant en œuvre des recycleurs et un mélange trimix. Après avoir fini l'écriture de ce manuscrit, je suis parti passer quelques jours à Santorin et j'ai plongé dans la caldeira au pied d'Akrotiri. Ce que j'y ai vu n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà décrit, et en particulier les tombants vertigineux. Mais pas l'ombre d'un mégalodon. Je me dois de signaler quelques libertés prises dans le récit par rapport à la réalité. Le site d'Akrotiri est fermé pour une durée indéterminée depuis 2005, à la suite de l'effondrement du toit en tôle qui était censé protéger les fouilles. Aucun ferry ne s'arrête plus à l'ancien port de Tira. Ils vont tous s'amarrer à Athinos. Enfin, les loueurs de deux roues ne proposent plus depuis longtemps des mobylettes hors d'âge, mais des motos et des quads flambant neuf. Il faut maintenant que je dise quelques mots des fées qui se sont penchées sur mon épaule pendant l'écriture de ce roman. Sonia Jarige, l'auteur du poème qui ouvre le chapitre 15, est quelqu'un pour qui j'éprouve à la fois de la tendresse et de l'admiration. Ses poèmes magnifiques sont des cris sans phare, des plongées au fond de son âme souvent torturée, mais jamais morbide. J'en aime autant la sensibilité écorchée que l'authenticité douloureuse. Cela ne l'empêche pas d'être, dans le privé, une jeune femme drôle et plein de charme. Je la remercie pour l'amitié qu'elle m'a montrée dès nos premiers contacts virtuels et pour tous nos fous rires et nos émotions par messagerie interposée. Je pourrais parler d'elle pendant des pages et des pages, mais elle m'en voudrait, donc j'arrête ici en ce qui la concerne. La citation de Jean Anouilh, qui figure au chapitre 13, m'a été soufflée par une personne qui parcourt le net sous le doux nom de Gabriel Trompe-la-Mort. Les personnes qui ont lu les trois perles de Domera et le miroir noir ne seront pas surprises d'apprendre qu'avec un pseudo aussi évocateur pour moi, j'ai voulu aussitôt la connaître mieux. Je suis allé avec elle de surprise en ravissement. Elle se prénomme vraiment Gabrielle. Elle avait 17 ans. Quand j'ai écrit les trois perles, ses cheveux sont rouges et elle a un visage d'ange. Pour tout le reste, même si elle s'est fait un plaisir d'afficher en tête de son blog « Gabrielle est une sorcière » en me citant, elle est plutôt dans la catégorie « explosion permanente d'énergie, d'humour et de charme ». J'espère la rencontrer en vrai un jour. Je tiens à remercier très chaleureusement une autre Gabrielle, très différente de la précédente, mais non moins adorable et fascinante par la richesse des mondes qu'il habite. Je l'ai connue sur le forum Hérésie, animé par Alisandre, que le lieu de naissance de Cléo fera sourire. Son pseudo y est Sylphide. Et elle a été la toute première à télécharger la crypte au palimpseste, dans la minute qui a suivi mon annonce de sa mise en ligne. 2 heures plus tard, elle postait des commentaires enthousiastes sur le même forum. Elle est aussi connue sous le nom d'Ekat. Gabrielle vit au Québec. Et j'ai vu, grâce à elle, le nombre de mes lecteurs là-bas littéralement exploser dans les jours qui ont suivi. À peine avais-je terminé l'écriture du présent manuscrit qu'elle me demandait à en être aussi l'une des relectrices. J'ai dit oui, bien sûr. Je lui aurais de toute façon proposé de l'être si elle n'avait pas dégainé, une fois de plus, la première. Schwip est le pseudo d'une autre rencontre de forum, qu'il m'est très agréable d'avoir vécu. J'ai fait sa connaissance grâce à mon ami Ness, qui au passage a entièrement refait mon site web, comme ça, pour me faire plaisir, alors qu'elle était plus débordée que jamais. Schwip a posté sur son blog une critique très élogieuse de ma première trilogie, et elle a pu réaliser à cette occasion à quel point elle était lue, et mieux encore, écoutée. Tout comme Sylphide, au Québec, elle a provoqué, à elle seule, un afflux considérable de téléchargements en quelques semaines. D'après l'hébergeur de mon site web, plus d'un tiers d'entre eux sont venus du blog de Schwip, ou de l'un des autres, où elle a publié le même commentaire. Annie Mébalet est un ange de 16 ans, qui vit au Gabon. Après avoir lu mes livres qu'elle a largement diffusés autour d'elle, elle m'a envoyé des messages absolument délicieux, et nous avons vite sympathisé. Son enthousiasme et son bonheur de vivre sont des antidépresseurs puissants dans les mauvais jours et des euphorisants non moins puissants dans les bons. En plus, elle se paye le luxe d'avoir déjà écrit un roman. Je veux la remercier ici de son affection pleine de fraîcheur. Enfin, je terminerai par toutes mes autres fées, déjà citées dans les livres précédents. Celles rencontrées autour de mon chez-moi virtuel, le forum. Et en particulier, mes 3 perles. Réginelle, dont j'ai emprunté le loft au chapitre 1. Romane, mon miroir d'or au cœur d'Orichalc. Et Lila, à qui j'ai ramené les 3 cailloux du dernier paragraphe du chapitre 17. Je fais également un salut très cordial à Antillaise, ma toute première rencontre de forum, désormais une amie, et à Fulmi, dont les commentaires m'ont toujours été précieux. J'envoie à Laëti mes pensées affectueuses pour tout ce que nous avons partagé, elle et moi. Et enfin, un clin d'œil permanent à mon cher Zeno, il comprendra, pour avoir assuré la relecture de ce manuscrit avec quelques autres déjà mentionnés ci-dessus. Quant à toi, Val, mon ami, aucun mot ne peut te dire tout ce que tu sais que je te dis. Ce livre est pour toi. Ce n'est ni le premier, ni le dernier. Anna Galore, 20 mai 2007.